Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient, on va mastiquer, il est 15h05, le Super Moscato Show. On est là, vous le savez, on attaque la semaine, là, plein, plein pot, lancé comme des frelons, on est avec le Steve Founet-Brain.
Salut mon Vince.
Parce que tu sais que Steve Founet, ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter et à écouter nos podcasts. 5 millions, 6 millions, on vise 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, énormément, 2-3 5 minutes tous les jours, c'est comme ça, c'est comme
beau,
ça, écoutez les diableries, diables d'Éric Fimeco, comment il va?
Comment ça va? Salut Steve, salut Vincent, salut les copains. Et il est rentré, Pierrot?
Eh oui, il est là.
Il est là, mon Pierrot.
C'est marrant, j'ai des oreilles un peu plus grandes que la semaine dernière. Ouais, mais continue de grandir cette saison, elles deviennent de plus en plus grandes, mes oreilles.
Bien sûr.
Peut-être à la fin, j'aurai deux grandes. On t'appellera Dumbo.
T'as pas que les oreilles que granit, t'as aussi les cornes qui poussent au fur et à mesure. Eric, ça va?
Mais impeccable, grande forme, écoute. L'entraînement continue. Pour porter la flamme.
Je t'ai vu courir. Quelle belle foulée.
C'est un désastre.
T'as couru combien de temps?
J'ai fait 30 minutes, mais en faisant du fractionné. Donc j'ai fait très bien.
Ah oui, tu fais 100 mètres.
La flamme, ça suffira. Hein.
Oui.
Si ça n'en va pas, ça ira quand même. Hein. C'est pas très très grave non plus. Mais bravo.
Alors, du footing. On a une question moyenne intelligente.
Diabolique ou quoi?
Non, elle n'est pas diabolique, elle est très intéressante. Ah. Elle est signée Benoît Boutron.
Ah.
Okay.
Bon.
Alors attention, concentrez-vous.
Donc les intelligents vont aller chercher chez Rotet sans flamme.
Tu te rends compte où on est tombé?
Là, c'est la fin du monde, là, non?
C'est vrai que c'est désespérant pour nous.
Si t'en piochais dedans dans les matinales, tu peux en piocher, mais là, quand même,
alors,
derrière
attention.
Nous, ça s'empire. Hein.
Accrochez-vous, parce que la réponse ne va pas de soi.
Ouais.
Qui a le plus de mérite? Jean-Louis Gasset ou Luis Enrique? Qui a le plus de mérite? Ah, Vincent, je vois que t'hésites. Hein.
Ouais, Gasset, il vient d'une situation quand même complètement désespérée. Ouais, non, Jean-Loup Gasset.
Jean-Loup.
L'autre,
il est dans un club de.
Frappadingue, dans une situation désespérée. Il a pris un coup de massue.
Il fait un pas à gauche, on dit quoi? Il fait un pas à droite, on dit quoi?
Le mec n'était pas arrivé déjà, il avait vieilli de 20 ans, il a 91 ans, 80, mais non, 93, il y en a un qui dit. Il venait, en plus il vient d'Afrique où il a pris quand même des campagnes.
Non mais là toi tu parles de Lou Gasset.
Il parlait de Luis Enrique.
Non, moi je te parlais de Lou Gasset. Non mais tu me parles du club de Frappadingue. Quand même,
c'est à Paris, tu fais rien de tout.
Oui.
Quoi que tu fasses, c'est la guerre.
Moi je pense quand même que vu le classement, vu tout, parce que mine de rien, le PSG, il serait quand même champion de France.
Donc
ils auraient des résultats, donc Lou Gasset, il n'y a pas photo.
Steve.
Luis Enrique. À 8 mois, parce que Jean-Louis Gasset, il savait que lui, c'était 4 mois, et puis basta, sans vraiment une énorme pression. Je pense que Luis Enrique, c'est pénible au quotidien, le Paris Saint-Germain.
Éric Dimeco.
Gasset, quatrième entraîneur de la saison. Avec tout ce qu'on a dit sur cet effectif et cette saison.
Bon, pour le salaire, je sais qui je choisis, moi. Mais bon.
C'est pas la question du jour.
Je vais te dire un truc là. Non, vous vous rendez pas compte, à Marseille, la proximité de l'entraîneur par rapport au public, même si tu le
connais. Oui.
Ce que tu n'as pas,
les amis,
Luis Enrique, Luis Enrique, Macias, il est dans Paris, c'est quand même beaucoup plus anonyme que là-bas. Là-bas, c'est un enfer. Il peut pas aller chercher un croissant, ni que dalle.
Déjà,
le
toi,
loup.
Tu peux pas, Vincent. Imagine Loulou.
Je suis le star.
Jean-Loup, c'est fait livrer, Jean-Loup.
Non, c'est compliqué.
La réponse pour l'instant, incroyable. C'est égalité parfaite, 50-50.
C'est vrai qu'elle est dure à départager, c'est pour ça qu'elle est bonne cette question.
Vous votez sur le compte Twitter du Super Moscato Show. Alors on va parler de l'OM et du PSG, mais on va démarrer par Brest, deuxième défaite consécutive, Vincent. Brest va-t-il tenir? C'est tout de suite, supporters brestois, appelez-nous au 32-16. À 16h, débat transversal, c'est le retour du débat transversal, Vincent.
La diagonale.
Barcola, Penaud. Le rapport ou pas? Bradley Barcola, Damien Penaud.
Bien sûr.
C'est quoi le rapport?
Le rapport, c'est qu'il y en a un qui peut jouer au rugby il y en a un qui peut passer du foot au rugby alors que l'autre il peut pas passer du rugby au foot.
Oh, ça c'est bon.
Super ça.
Est-ce que
il suffit de le mettre sous. Il suffit de le mettre Barcola. Il suffit de le mettre sous une barre, il fait du rugby. Alors que Penaud, c'est mort, il a deux croissants de lune à la
place. Barcola et Penaud sont-ils des ingrats avec leur ancien club, bien sûr, Lyon et Clermont. Il a remis un triplé Penaud hier.
Et
puis puis, alors là, l'invité de dernière minute, Faris Moumbagna, doit-il avoir sa chance à l'OM en cette fin de saison? C'est lui qui a sauvé la semaine de l'OM, en tout cas, Faris Moumbagna. Tu connaissais ce nom?
Faris? Oui. La classe.
Faris?
Dans la classe.
Fabrice,
la classe.
Ah oui.
Il y a la
famille.
Avec Olivier
Lejeune.
Il se passait, quoi.
Oui,
il se passait.
Mimati, tout le monde.
Mimati, elle dépassait pas la table, par contre. El Château de tout le monde.
El Château.
El Château. Bézu.
Bézu. Le journal moyen est assuré cette semaine. On se débile.
Bigard aussi, il est passé là-bas, non?
Tout le monde. Julien
Bigard, oui, t'as raison. Bigard,
dans le Kikadi, on vous offre votre paire de baskets Wiz. Vous inscrivez tout de suite en envoyant Kikadi par SMS au 7-32-16. Mais tout de suite, Vincent, Brest, va-t-il redevenir Brest?
RMC, le Super Moscato Show.
Cette année-là, le stade brestois avait attendu 6 journées avant de prendre son premier point et 19 journées avant sa première victoire. Aujourd'hui, l'équipe est complètement remaniée.
L'équipe du Moscato Show, faut pas s'inquiéter, ça va peut-être être possible. Et de toute façon, si on est qualifié en Europe, ils viendront faire une émission à Brest.
Financé par un prêt bancaire, un prêt cautionné de manière originale.
Mais preuve qu'il a une grande faculté d'adaptation.
Histoire de démontrer aux actionnaires la justesse de leur choix, Brest va marquer dès la troisième minute de jeu.
Si on pète pas le boulard, ça va aller. Mais je pense qu'on n'a pas un groupe à péter le boulard. Ouais. Breaking
news. Il serait pas en train de péter le boulard, Brest, Vincent.
Malgré eux.
On peut...
Malgré eux.
Non, malgré eux, bien sûr. On peut s'inquiéter. Deux défaites coup sur coup. Alors, c'est deux défaites honorables. Hein. C'est Lyon et Monaco. Mais c'est deux défaites qui font mal puisque Brest n'est plus deuxième. Brest est menacé par Lille pour la troisième place. Et on sait que troisième ou quatrième, c'est pas du tout la même chose puisque quatrième, t'as un tour préliminaire pour jouer la Ligue des Champions.
3, et même... direct.
3, c'est direct. Et même la quatrième n'est pas assurée aujourd'hui, hein, à l'heure où on se parle. Qu'est-ce qui se passe, Vincent, à Brest? Tu vas nous le dire. Est-ce qu'ils sont rattrapés par la pression, par autre chose? Est-ce qu'il y a un complot anti-Brest? Certains le pensent.
Non. Surtout ce qui se passait avant, quand même. C'était quand même normal.
C'est ça qui n'est pas normal.
Il revient à la normalité.
Est-ce que Brest va se qualifier pour la Ligue des Champions? Voilà la question qu'on vous pose au 32-16. On aimerait bien avoir votre avis, supporter de Brest. Alors, écoute d'abord Éric Roy. Le coach qui a voulu dédramatiser la course à l'Europe, parce que lui, il parle pas de troisième place, il parle de Ligue Europa Conférence plutôt que de Ligue des Champions.
Bah, pour la Coupe d'Europe, par rapport au septième, on est quand même, on est mieux, nous, que le sixième, hein, ou le septième, hein, je sais pas, on a un peu plus de points, donc bon. Mais moi, je crois à rien, je crois à tout. Je crois à notre prochain match où on va essayer de faire le meilleur match possible et marquer des points. Donc, comme on l'a dit toujours, on fera les bilans à la fin. Mais pour l'instant, on va dire qu'on est en ballotage favorable pour éventuellement jouer la Conférence League.
Alors, leur prochain match, c'est à Rennes. Je vous donne les quatre matchs qui restent à Brest. Hein. À Rennes, ensuite réception de Nantes et de Reims, et un dernier déplacement à Toulouse. Monaco qui est devant un match en retard. Lille a également un match en retard. Et Nice a également un match en retard. Lille n'a plus qu'un point de retard sur Brest. Hein. Donc, potentiellement, Lille peut passer devant dès mercredi, mais il faudra aller gagner à Monaco. Vincent, qu'est-ce qui se passe à Brest? Est-ce que tu les vois tenir?
Je les vois tenir, non, je les vois pas tenir. Je les vois européens, bien entendu, dans les six premiers. Mais là, je pense qu'ils vont exploser. Le niveau, alors, je comprends l'entraîneur. L'entraîneur, il te dit, bon, ben, nous, l'important, c'est d'être dans les six premiers. Et il a raison. Parce qu'à la base, tu démarres la saison. Quand tu démarres la saison, tu te dis, si on se maintient encore cette année, chaque année, Brest joue le maintien. Et puis, ça peut sourire, à un moment donné, ils peuvent être en Champions League. Donc, il y aura quand même une déception parce qu'ils auront accroché cette place. Je leur souhaite d'y être, bien entendu, mais ça me paraît tellement compliqué. Tout le monde en revient, c'est le sprint final, et eux ont tout lâché. Des fois, ils se disaient, rappelle-toi le Montpellier, il y a 10 ans ou 12 ans, ils ont tenu jusqu'à la fin, mais ça marche pas à tous les coups. Eux, ils vont craquer un peu. Ils ont déjà commencé à être friables. Bon, après, il n'y a pas de honte à perdre contre Monaco. C'est quand même normal que Monaco batte Brest. C'est quand même un peu logique. Bon, ils craquent un peu, mais s'ils sont dans les 6 premiers, c'est déjà magnifique. C'est magnifique. Après, on leur souhaite, bien entendu, qu'il y aura du regret. S'ils sont pas qualifiés en Champions League, il y aura un énorme regret. Les joueurs auront tellement, ils y auront tellement cru. Brendan, on lui souhaite encore une fois. Mais je pense que ça va être, si tu me disais de mettre un billet, je le mettrais sur la Ligue Europa plutôt que sur la Champions League.
Eric?
Écoute, la saison est quand même déjà extraordinaire. Enfin, c'est une équipe qui est prédestinée à jouer la relégation. Et là, ils sont depuis le début de la saison tout là-haut. Et c'est pas dit qu'ils y seront pas au bout du compte. Alors oui, bien sûr qu'ils ont un passage à vide. Mais si tu regardes bien, finalement, toutes les équipes ont eu le moment de bien, moins bien. Ben, eux, ça leur arrive à la fin. Peut-être justement que l'effectif est pas dimensionné pour faire de 34 journées au haut niveau, tu pioches un peu à la fin physiquement, peut-être aussi que les émotions à un moment donné te gagnent, mais attention, parce que là c'est quoi le match en retard, c'est Monaco-Lille. Oui. Donc il y en a qu'un qui va prendre des points déjà, parce que là on a
peut-être
l'impression que Lille va leur passer devant. Oui, voilà, oui, non mais je veux dire, on a l'impression que les deux équipes il va être décisif, ils sont tous décisifs maintenant parce qu'il y a il y a plus que 4 journées hein, à part ceux à qui il manque un match. Mais quoi qu'il arrive, la saison est déjà extraordinaire et je vais même plus loin. Est-ce que, alors oui, peut-être que financièrement, bien sûr, quand tu fais les cotes, faire la Ligue des Champions, ça c'est plus que du beurre dans les épinards. Mais est-ce que Brest, c'est-à-dire le budget de Brest, l'effectif de Brest, les ambitions de Brest, est-ce que ils sont pas plus dimensionnés? Non, mais est-ce qu'ils sont pas plus dimensionnés pour une Ligue Europa, par exemple, que pour une Ligue des Champions? Parce qu'attention, jouer la Ligue des Champions, ça implique quand même beaucoup de choses qui font que tu peux avoir l'année d'après pour gagner 20 millions ou je sais pas combien c'est la participation. Pierrot,
tu peux jouer la savoir, toi.
La minimum, bah, non, c'est plus que 20 millions. Après, le chiffre, je ne l'ai pas exactement.
Tu l'as pas, tu peux à l'arrivée le payer très cher l'année d'après. Donc on leur souhaite de faire la Ligue des Champions, on leur souhaite tout le bon, mais s'ils finissent quatrième, voir ces games.
Et est-ce que tu les vois tenir justement pour être troisième?
Entre 35 et 50 la participation en Champions League.
Entre
35 et 50.
Ah ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait des sous.
Ah quand même.
Ça fait des sous, mais sauf que pour un club comme Brest, c'est énorme, mais quand tu fais signer des contrats avec ce surplus, il faut l'assumer derrière les années qui viennent après. Le problème, c'est que quand tu fais une année de Ligue des Champions, tu dimensionnes les mecs, il va falloir garder des mecs, tu vas leur faire une horloge de contrat, tu prends des sous. Si l'année après tu finis dans le ventre mou, tes contrats, tu continues à les payer pendant 3 ou 4 ans. Hein. Donc derrière, tu peux te mettre en danger. Donc écoute, moi je les vois finir dans les 5 et ce sera énorme bien, et ils seront en Coupe d'Europe l'année prochaine et ce sera très bien pour eux. Et je te dis, je suis pas sûr que la Ligue des Champions soit une bonne nouvelle pour eux.
Pour les joueurs, en tout cas, je pense que
Oui, mais même pour les dirigeants, à un moment donné, quand pendant 30 journées, tu étais là, deuxième du championnat ou troisième et qualifié en Ligue des Champions, si à la fin, tu n'y es pas, mine de rien, tu y as cru jusqu'au bout, la déception, elle est énorme. Maintenant, moi, je crois pas podium, j'y crois plus. Je pense qu'ils vont s'accrocher à la quatrième place.
Podium, tu crois plus?
Non, je pense qu'ils vont s'accrocher à la quatrième place. Ça voudrait dire tour préliminaire, mais là aussi, c'est très piégeux parce que ton recrutement, tu le fais pas. Tu sais pas
Brest
qui tu prends les joueurs.
Brest permet d'aller en Ligue des Champions sans avoir un recrutement.
Ce
qui te dit Steve, écoute-le, si tu fais tour préliminaire, ça veut dire que tu ne recrutes pas, d'abord reprise plutôt que tout le monde, et tu ne recrutes pas parce que tu sais pas si tu vas être en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, et du coup, ça peut te faire passer à travers la Ligue des Champions.
Pour moi, s'ils sont quatrième, il y a plus de chances qu'ils soient éliminés que ce qu'ils disent.
Et puis ils iront en Europa League.
Et c'est très bien.
Vous l'avez dit, c'est pas un effectif qui est taillé pour être performant sur 30. Il leur manque Pierre Lesmelou qui a pris
le rouge. Un peu scandaleux.
Parce que le rouge à Lyon, il est scandaleux. Il a pas été retiré. Il joue pas hier.
Surtout que d'autres clubs ont déjà vu des suspensions injustifiées retirées.
Et Brest, au contraire de Monaco qui a perdu Golovin jusqu'à la fin de saison, Brest ne peut pas jouer sans Pierre Lesmelou. Il est trop important. Ensuite, Brassier était blessé, il n'a pas joué hier. C'est deux pions essentiels de la belle saison brestoise. Et ensuite, tu as un peu l'impression que la baraka des 8 premiers mois, elle est en train de passer. Tu l'as dit, Pierrot, avec l'arbitrage, ils n'ont pas grand-chose dans leur... Et puis, il y a une certaine logique. Quand tu n'as pas gagné un seul match sur le top 5 de Ligue 1, parce que le top 5 de Ligue 1, c'est 4 défaites, 4 nuls pour Brest. Ils n'ont pas gagné une seule fois contre les équipes du top 5. Tu t'aperçois qu'il y a une certaine logique. Là où ils ont été exceptionnels, c'est qu'ils ont battu, toutes les équipes qui étaient dans le ventre mou. Et c'est là ils ont récupéré tous leurs points. Maintenant, ça va être compliqué de tenir parce que Monaco, Lille et ces équipes-là sont formatées pour bien finir avec un effectif monstrueux. Donc,
moi, je voudrais pas qu'ils lâchent complètement. Si tu prends 4 casquettes, tu peux finir 7e, 8e.
Oui,
Mesmelou,
il rentre
Mesmelou.
C'est pas Mesmelou.
Lesmelou.
Lesmelou.
Non mais oui, j'espère qu'il applique un match.
Oui, oui, un match. Ils vont prendre des points chez eux contre Nantes et contre Reims.
Voilà, voilà. Ce qu'il y a, ce que Steve vient de te dire. Alors après, c'est pas la science infuse.
Non, c'est non,
pas
plus.
Non, 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 non. C'est pas ça que je voulais dire. Ce que tu dis est la réalité. Sauf que c'est pas obligé que ça se vérifie sur les deux derniers matchs. Mais c'est la réalité. Brest cette année contre des équipes de leur niveau entre guillemets, puisqu'ils étaient devant, ils ont fait le job.
Exactement.
Et donc s'il faut le job contre Reims et contre Nantes, eh ben tu leur remets 6 points de plus, il va falloir aller les chercher quand même, parce que les autres derrière ils ont pas pris les points. Rappelez-vous Nice, ce qui vient de leur arriver, Lens qui leur est arrivé, les deux derniers matchs là ils ont gagné, mais les deux coups d'avant là ils se sont fait accrocher. Rennes, c'est les spécialistes pour te faire croire un coup qu'ils vont aller au bout puis pour perdre 3 matchs de suite. Donc les autres non plus, faut pas croire, à part Lille qui est sur une pente ascendante, une belle dynamique, et
Monaco,
d'ailleurs on va voir
et, problème,
et,
Mon, en fait.
Et Monaco, oui, mais Monaco ils sont à leur place, Pierrot, si tu veux. mais les autres, Nice, Lens, à qui on prédit peut-être qu'ils vont dépasser Brest, mais il va falloir qu'ils le et Rennes bon, il faut qu'ils le fassent le job.
Il va falloir prendre plus de points que Brest si vous voulez repasser devant.
Et ouais
c'est pas faux,
mathématique ça,
c'est noué quand même.
Alors on va donner la parole aux supporters de Brest. On nous appelle du Conquet chez Brendan Chardonnay. Patrick,
c'est le voisin,
c'est soit le voisin soit la famille,
Non, ça, salut les gars. Voilà, je suis trop content de parler à Vincent et puis à Eric, parce que je suis aussi supporter de l'OM. J'ai déjà ma place d'ailleurs pour l'Atalanta. Mais bon, on va parler de Brest, parce qu'on n'en parle pas souvent. Donc c'est bien que vous ayez mis le sujet.
Mais s'il n'y a pas nous, personne n'en parle.
Tu rigoles quoi, Brendan, toutes les semaines. Quand même, heureusement qu'il y a Brendan. C'est vrai.
La plupart des joueurs de Ligue 1 demandent à l'entraîneur où ils vont quand ils jouent à Brest.
Et le Conquet, d'ailleurs, accessoirement, c'est aussi le village de Gauthier Larsonneur, le gardien de Saint-Étienne, qui jouait avant à Brest.
Avec ses parents qui sont pêcheurs, c'est ça?
Ouais. Exactement.
C'était le sommet de l'histoire.
Bon, après, on rigole, mais on sera bien content quand l'an prochain, ils seront de nouveau 14e.
Ah bah oui. Parce que ce qui nous a manqué, c'est la moquerie. Tu veux pas te mentir, sur Brest, c'est la moquerie. C'est le point de comédie qui nous a mené chaque année.
Alors, t'écoute, Patrick. Est-ce que tu crois encore à une affiche à Francis Leblay, Brest-Real Madrid l'an prochain?
Alors, déjà la question, est-ce que ce sera Francis Leblay? Parce que pas sûr que le stade soit...
Alors, il y a une info de l'équipe qui date d'il y a quelques minutes, là. L'UEFA n'a pas accordé de dérogation.
Ouais, ouais.
Donc, c'est soit à Francis Leblay devant 5000 personnes, soit ailleurs.
Non.
Ouais. Parce qu'ils ont des tribunes tubulaires qui ne sont pas réglementaires.
C'est ça le problème, les gars.
C'est quoi les tribunes tubulaires?
Patrick, pas tubulaire.
C'est un mode de construction.
Si tu veux savoir ce que c'est tubulaire, Steve, je te le montre. La prochaine fois que je monte, je te le montre.
En métal.
Pas tubulaire, non, il y a tube. C'est-à-dire, c'est du
tube. Alors après, que ce soit à Leblay ou à Roizen Park ou ailleurs, la qualification en Ligue des Champions est évidemment encore tout à fait possible. Eric l'a très bien dit. Les matchs, il reste deux matchs à domicile, Reims et Nantes d'abord, plus le déplacement au Roizen Park le week-end prochain. Donc c'est tout à fait possible, à condition bien sûr qu'on arrête de se faire entuber par les arbitres. Il y a eu d'ailleurs le Télégramme qui a fait en fait qui a repris tous les matchs et qui posait la question, est-ce que Brest oui ou non a été pénalisé par l'arbitrage. Donc il y a certains matchs où les Brestois ont bénéficié de décisions arbitrales, et puis il y en a eu d'autres où ils se sont fait royalement enfler. À Lyon, c'était flagrant. Il y a eu le match aller à Monaco également, où ça avait été invraisemblable. Donc effectivement, on n'a pas battu d'équipe du top 5.
C'est la faute de l'arbitrage.
Non, mais après, c'est vrai que sur l'arbitrage, chaque équipe a un peu l'impression de se faire avoir. Ouais, donc, pour relativiser ça, mais c'est vrai que Brest a eu des cas très, très particuliers, des cas grossiers, en fait.
Est-ce qu'il y en a qui morflent plus que d'autres? C'est ça qu'il faut analyser.
Bien sûr, mais eux, en tout cas, ils ont pris deux ou trois très belles dans la saison.
Dans la carotte, ils ont une belle récolte cette année de carottes.
Et sachant que, par exemple, Pierre Lesmélou, ce qui est fabuleux, c'est quand t'as Anthony Gauthier, qui est patron des arbitres, qui vient dire, bah oui, jamais Pierre-Luc Milou aurait dû prendre un carton rouge, mais derrière, il y a quand même la commission de discipline qui le suspend quand même un match. Donc ça, c'est quand même assez grandiose. Bon, maintenant, est-ce que on va faire la Ligue des Champions? Ça reste tout à fait possible.
Surtout que Lille,
qui est derrière, alors qui pousse effectivement très fort, mais va aussi prochainement rencontrer Monaco. Et donc, comme ils vont tous se rencontrer les uns avec les autres, ils vont forcément y laisser des plumes. Après, au Brestois de faire le plein sur les matchs qui viennent.
Vous êtes quand même tibulaire du résultat des autres.
Tibulaire. Petite question, Pierrot, sur cette histoire de stade. Parce que justement, tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais de clubs dimensionnés plus pour la Ligue Europa que pour la Ligue des Champions. Parce que si tu fais la Ligue des Champions, que tu joues pas dans ton stade, c'est terrible quand même. Tu vois, la récompense, tu l'as pas en entier. Donc, est-ce que la Ligue Europa, c'est le même problème avec.
Même problème. Des rencontres européennes.
Ça veut dire que même en Ligue Europa, ils vont être obligés d'aller jouer ailleurs.
C'est un enfer. Donc tu payes en plus quand tu vas aller jouer chez les autres.
Ah bah tu
as une location.
C'est une location différente.
T'imagines financièrement. Les mecs qui font payer 200-300 000
euros. Sinon, faut jouer devant 5000 personnes.
Mais bon, tu peux faire le play chaque fois aussi.
Mettre personne dans les tribunes tubulaires.
Avec un grand écran.
Mais après, la Ligue des Champions, si c'est 20 millions, 25 millions, c'est aujourd'hui la moitié, ça représenterait la moitié de ce qu'est le budget du Stade Brestois. C'est-à-dire que Brest, année, avait un budget de 46 millions.
Mais qu'est-ce que vous en feriez?
Une augmentation de.
Vous n'êtes pas habitué à avoir de l'argent. C'est pour ça qu'il y a des pauvres qui restent pauvres et des riches. Qu'est-ce qu'on va vous donner 25 millions de plus, vous allez faire des
pauvres. Vous allez mal les gérer.
Vous allez boire, vous achetez à manger. Ça ne sert à rien. Restez là où vous êtes et puis ça ira très bien. Autant avec le coup. 30 millions, le voyons même pas passer, ils s'en cirent, Monaco. Ils s'en foutent, mais vous
allez faire n'importe quoi. N'oublie pas de dire que c'est pour rire.
Oui, quand c'est pour rire, s'ils n'ont pas compris.
Parce que là, il y a des humour à Brest, Vincent.
Ah non, là, c'est au moins, ils sont sur les danses.
Ils doivent être.
Notre auditeur,
il est super, Patrick, il est super.
C'est parce qu'il est du coquet.
Je sais qu'il était pas tribulaire, mais il est bien, Patrick. Il est super.
Quentin, bonjour.
À Quentin.
Alors, comment il va, l'humour ou pas,
t'es dans
le Moscato Show,
hein. Oui, bon, t'inquiète pas.
Salut à tous.
Bonjour, Quentin.
Tu veux nous parler de qui? De l'arbitrage, de Les Mélou?
Bon, rapidement, je pense pas que ce soit forcément une cabale contre Brest, hein, ça c'est un peu...
Des erreurs, des faits.
Moi je pense que vous gênez.
Oh non, je pense pas. Je pense juste que c'est l'arbitrage français en général qui est mauvais.
Ça va être l'esprit,
comportement contre Brest, vu que par exemple le match, la première journée contre Lens, je pense pas que l'arbitrage était forcément contre nous, quoi.
Voilà. Bravo. Ça gêne pas, c'est bien de la lucidité.
Mais il gêne pas Brest. Ça dépend avec qui tu parles. Bon, mettons quand le patron de la Ligue 1 rencontre le président de Barcelone ou de Madrid, quand il dit à Brest qu'il y a une seconde poule, peut-être que des fois il baisse la tête quand il dit ça par rapport à la situation.
Je pense pas que l'Orléanais soit très
content. Oui, mais bien sûr. Voilà.
Bon. Quentin,
c'est pas grave,
tu y crois encore Quentin, pour la Ligue des Champions?
Oui, mais vu le calendrier, on peut que y croire. Et tant que c'est pas fini,
C'est qui votre meilleur joueur, Quentin?
C'est Quentin Milou.
C'est compliqué, je dirais. J'en dirais trois, voire quatre.
Vas-y.
Bizot.
Qui?
Là, on a Bizot. Le Hollandais volant dans la team pirate, donc forcément, ça peut caler.
Bizot, oui, très bien.
Quentin Milou au milieu, forcément.
Ouais, c'est Milou. Ensuite.
Del Castillo.
Del Castillo.
Et Captain Chardo.
Ah, heureusement quand même,
Captain Chardo, il est capable d'avoir 4 dans l'équipe après avoir marqué un but quand même. Hein.
Ça veut dire qu'il a fait une passe à l'adversaire quand même.
L'autre jour, quand j'ai dit ça, il m'a envoyé un texto
d'énergie. Comment il soigne ses relances? Je sais pas si vous avez remarqué.
Oui. Une touche. C'est ce qu'il lui a dit. Rick Roy, il lui a dit, tu sais quoi, une touche en touche maintenant, directement.
Vincent.
Des fois, quand il court, il regarde derrière, il a l'impression qu'on lui tire le champ. Comme ça.
Dis-moi, il y a personne. Juste pour les Brestois, redis-nous le nom de leur meilleur joueur au milieu de terrain qui était suspendu contre Monaco.
Les Mélou.
Bravo. Bravo, Vincent. Est-ce qu'on demande à Denis Charvet d'essayer?
Allez, on demande à Denis Charvet d'essayer.
Et on l'embrasse, Denis. Les Mélou.
Pierre Les Mélou, Denis Charvet.
Bien sûr.
Mélousse,
merci Denis.
Mousse Mélène. Monsieur, tu racontes que ça.
Mousse Mélène, oh. Le pauvre.
C'est énorme. Tu racontes que ça l'a tué, ce pauvre Denis, cette blague-là.
Déjà,
rupture d'anévrisme.
On le salue.
Tu crois qu'il nous entend de là où il est?
Non, je pense qu'il est là-haut.
Tu vois ce qu'il nous écoute. Avec André Boniface et Kenji.
Kenji.
Arrête. C'est pas rigolo, ça.
On embrasse à Kenji.
Dans un instant,
on lui souhaite un bon rétablissement.
Le super Moscato Show va répondre à Stephen Time. Attention, c'est bombardé.
Qu'est-ce que c'est cette histoire? 15h29, le Super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au Mastic, il est 15h30. Éric Dimeco, Steve Funébret et Pierrot Dorian. Pierrot, dans demi-heure, claquasse le programme.
Alors, dans une demi-heure, c'est le retour, le grand retour du débat transversal. Bradley Barcola, Damien Penaud, sont-ils des ingrats? Vincent, tu vas régler ce problème. Ils ont éclaté leur club formateur hier.
Et, voilà. Et Damien n'était pas pelot.
Damien était content, mais c'est normal d'être content quand tu mets un triplé, non?
Un triplé, un hat-trick.
Et Barcola, il Barcola a fait aussi, coucou au supporter lyonnais comme ça.
Et quand tu ne vas pas empêcher la joie de cette jeunesse. Ben oui, non, mais il est, bien sûr, peu importe le maillot.
Donc, il ne faut plus faire coucou.
Ben, alors, on ne peut plus faire coucou.
Alors,
on ne peut plus faire de bise. Eric, il ne veut pas. Toi, Pierrot,
on
ne peut plus faire des coucou.
Alors, qu'est-ce qu'on fait alors?
Le pire, c'est les bises à la bouteille.
Ça, oui, ça peut. Ça.
Il est interdit d'interdire mise à la bouteille.
Alors, supporters de Clermont, supporters de Lyon, venez répondre à cette question. Est-ce que ce sont des ingrats? Bradley Barcola et Damien Penaud. Qui les tire bien.
Il les tire bien.
J'ai pas envie de le dire parce qu'il allait venir. Mais tu crois que si je m'en foutais, il tirerait bien les pénaux?
Mais tout de suite, attention. Là, je vais me fâcher.
RMC, le gueule du Super Moscato Show.
Alors je réponds directement à Stephen Brun que j'ai quasiment en face de moi là. J'ai juste légèrement en diagonale. Stephen Brun à propos du conflit Mbappé-Luis Enrique. Moi naïvement je pensais que le conflit était terminé. Si on peut parler de conflit d'ailleurs. Vous avez fait un débat dans Stephen Time qui était Kylian Mbappé-Luis Enrique. Qui est le plus important? Pourquoi pas? Voici ce qui m'a dérangé dans cette séquence samedi après-midi sur RMC.
Mais moi, j'aimerais connaître une personne qui, aujourd'hui, alors peut-être qu'elle est là autour de cette table, me regarde dans les yeux et me dit que Luis Enrique, sans Mbappé, est capable de faire la même saison sportivement. C'est-à-dire qu'aller en demi-finale des champions, de Ligue des champions, est-ce que Luis Enrique l'aurait fait sans Kylian Mbappé? J'espère qu'il y a quelqu'un de courageux autour de la table qui va être capable de le dire. Parce que moi, je suis capable de dire, par contre, que sans Luis Enrique sur le banc, avec un autre coach, Kylian Mbappé aurait pu aller en demi-finale de Ligue des Champions. Donc pour moi, s'il faut vraiment trancher entre les deux, parce que c'est un débat qu'on a voulu et qu'on a souhaité faire, pour moi, Kylian Mbappé reste l'élément le plus important du Paris Saint-Germain cette saison.
Alors moi, je te regardais dans les yeux, Steve.
Sache que je suis avec toi.
C'est très simple. Non mais qu'on débatte de qui est le plus important entre l'un ou l'autre, pourquoi pas, c'est ce qu'on fait tous les jours, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qui me dérange, je ne comprends pas, et je ne comprends toujours pas pourquoi faudrait-il choisir entre les deux. Tu dis, à un moment, si on doit prendre l'un ou l'autre, mais en fait, pour moi, ça n'a plus aucun sens. Il me semble que dans cette histoire, pour une fois, c'est rare, mais ça arrive, tout le monde sort par le haut. Il me semble que l'histoire elle est terminée. Il n'y a plus de conflit pour moi entre Mbappé et Luis Enrique. C'est fini. Le PSG est qualifié en demi-finale. Il s'est qualifié collectivement, je pense qu'on peut le dire. C'est pas Kylian Mbappé n'a pas été la figure unique et centrale de la qualification. Et en même temps, il a mis son doublé. Donc tout le monde est content. La situation est réglée. Je pense que Luis Enrique, il est en train de réussir quelque chose. Moi-même, je n'y croyais pas. Que tous les clubs de sport collectif dans toutes les ligues du monde essayent de faire, c'est de créer une cohésion, de créer un collectif qui fonctionne. Avec les armes qu'il a, on peut débattre du talent des uns et des autres. Ça ne me dérange pas de dire que Mbappé est le plus talentueux, ou du moins le plus fort, c'est-à-dire celui qui est le plus à même de faire basculer une rencontre. Mais enfin, on a vu un match de Ligue des Champions qui bascule du bon côté sans que le PSG soit dépendant de ses individualités, ce qu'on cherche à faire depuis des années. Donc moi, ce que je comprends pas, quand on revient encore sur Luis Enrique, vous préférez quoi en fait? Un PSG qui se qualifie uniquement parce qu'Mbappé est bon, ou un PSG qui est capable de se qualifier quand il est bon et quand il est pas bon? Je veux dire, il était pas bon au match aller, on a le droit de le dire, et Luis Enrique, on a aussi le droit de le critiquer parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il me semble que pour une fois, le PSG a réussi un truc qui est peut-être unique dans l'ère qatari, c'est qu'ils ont réussi ça. Et c'est peut-être même l'unique raison qui te fait croire que la victoire finale est possible. Parce que moi, je crois pas que Mbappé, il soit capable de te faire gagner tout seul, hein. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Et même Cristiano Ronaldo ou Messi, quand il a gagné la Ligue des Champions, il avait des monstres avec lui, hein. Donc ça se passe jamais comme ça. Nous, on a souvent fait cette erreur de penser que ça allait peut-être se passer comme ça. Bah, aujourd'hui, soyons contents de ce qui arrive. Bravo, Luis Enrique. Ça nous empêchera pas, Luis Enrique, de te dire ce qu'on a à te dire quand tu feras n'importe quoi. Mais, allons pas encore opposer ces deux-là quand aujourd'hui ils sont enfin dans le même bateau et qu'ils vont dans le bon sens.
T'as eu Pierron, t'as laissé parler.
Non, mais ça me paraît tellement évident qu'il n'y a plus de débat. C'est pour ça que j'ai voulu faire un cri de gueule et pas un débat, parce que pour moi le débat est terminé, et pour une fois il se termine bien, ça arrive de temps en temps.
Rarement.
Bon, il avait besoin de cracher son venin, les gars.
Mais
bravo.
Non, parce que lui avait honnêtement,
non, mais est-ce qu'il y a une réussite collective, ne séparons pas les deux, ne dissocions pas les deux. Bien entendu que si tu me dis, tu préfères Maradona ou son entraîneur, Pelé ou son entraîneur, bien sûr que le plus dur c'est d'avoir Maradona, Pelé ou Mbappé.
Oui.
Bah, mais ça, c'est comme tu préfères avoir LeBron James dans ton équipe ou l'entraîneur de LeBron James. Mais moi, je préfère avoir LeBron James parce que l'entraîneur, je vais en trouver. Maintenant, ils ont réussi. C'est vrai ce que Pierrot dit. Ils ont réussi en même temps, bon truc, et pas par son individualité, par un collectif. Donc c'est plutôt pas mal. On peut dire que la patte de Luis Enrique, un petit peu, bien sûr que les joueurs sur le terrain sont essentiels, mais ça c'est des bêtises de dire ça, c'est la palissade de dire ce genre de truc. Pierrot, mais je pense que là on peut lui dire un peu, bon ben ça, il s'est pas loupé, il avait donné rendez-vous.
J'ai jamais voulu dire qu'il y avait un conflit Luis Enrique qui est Mbappé. Le débat c'est qui est le plus important. Moi je pars du principe qu'un joueur qui est top 5 monde sera toujours plus important qu'un coach sur un banc. Maintenant que Luis Enrique ait réussi à faire ce que tu as dit, c'est-à-dire être capable de gagner sans envoyer des sacoches à gauche et donner le ballon à Mbappé dans la profondeur, et ensuite on regarde Mbappé jouer. Bravo Luis Enrique, c'est exceptionnel, mais tu m'empêcheras pas de penser que parce que Kylian Mbappé sur le terrain, ça a permis aussi à tous les joueurs autour de s'exprimer et d'être bon.
Ouais,
c'est tout.
Mais sauf que, vas-y. Sur ce point-là, moi ce qui me dérange, c'est qu'à force de toujours cirer Mbappé.
Mais je ne cire pas Mbappé, à l'aller il a été nul.
Le cycle était nul. Ouais, mais tu dis, c'est peut-être que les autres ont brillé.
On sous-entend que s'il n'est pas, personne n'y arrive.
Toute proportion gardée, ça me fait penser à Neymar, qui prend ombrage des retombées de la remontada, parce que c'est lui l'artisan principal, mais tous les lauriers vont à Messi. Ça a fini par le gonfler, il a quitté Barcelone. Faut pas faire la même chose. Je veux dire, aujourd'hui, il faut mettre en avant Dembélé, Barcola, Vitinha.
Il n'y a aucune honte de dire que ces garçons-là ont été très
forts. Nous, on parle que de Luis Enrique et d'Mbappé. L'équipe a mis qui en une? Mbappé. Le Parisien a mis qui en une? Mbappé. C'était pas son match. Je suis désolé. Il faut arrêter de faire cette erreur-là. Ces mecs-là, ils ont le droit, de temps en temps, alors reconnaissance à eux aussi.
C'est la reconnaissance, ils l'ont. Vitinha, il l'a aussi, Pierrot. Marquinhos, la reconnaissance du match retour à Barcelone au Camp Nou. Il l'a eu aussi.
Faites attention de pas prendre. Après, quand ils auront fait ce qu'il a fait l'autre, peut-être.
Oui, mais l'autre, il l'a fait à d'autres occasions, pas là. Là, c'est pas lui, donc laissez-le tranquille.
Oui, mais Steve, ce qu'il disait, c'est. Non, mais Steve, ce qu'il disait, c'était pas ça. Steve, il dit que sur toute la saison, s'il n'y a pas Mbappé, c'est peut-être pas la même.
Et puis arrêtez de prendre la scène.
Et que s'il doit choisir entre le coach et le joueur, il préfère le joueur.
Sauf que.
Faites attention aux interférences venues du Sud. De prendre la chaîne en otage pour justement troubler ce PSG là. Faites attention à ça.
Sauf que quand Luis Enrique, peut-être pour des mauvaises raisons, pas de souci, hein, a commencé à traiter Mbappé comme les autres, parce que je vous signale que Dembélé, il n'a pas joué une minute hier. Il y a plein d'autres matchs où il n'est pas titulaire ou je sais pas quoi. Ça n'a jamais posé problème à personne, hein, soit dit en passant. Hein. Mais à partir du moment où il a commencé à le coacher comme les autres, il s'est dit, et notamment toi Eric, oui mais sans Mbappé, il n'y arrivera jamais, donc il fait n'importe quoi. Bah, je pense que maintenant, on peut passer à autre chose quand même.
Il a construit quelque chose qui fait que sans Mbappé, contre Lyon, l'équipe elle est capable de bien jouer au football. Et ça s'est vu encore hier. Ça, c'est la grande force de Luis Enrique, d'avoir impliqué tout le monde et d'avoir mis beaucoup de monde à un niveau d'importance qui n'était pas le cas les années précédentes. Aujourd'hui, tout le monde est impliqué dans le projet, 14, 15, 16 joueurs. Avant, un 11 type, les autres, ils n'existaient pas. Ça, c'est la force de Luis Enrique. Maintenant, je vous espère que Paris Saint-Germain est capable de gagner des matchs contre l'Olympique Lyonnais au Parc des Princes sans qu'il y ait un Mbappé
Champions League. Dembélé marque deux buts. Vitinha marque deux buts. Oui. Donc ce n'est pas que Mbappé qui t'a fait gagner. Parce qu'Mbappé qui marque
une fois. Mais peut-être que si tu es là aujourd'hui, c'est parce qu'il était là depuis avant.
Oui, d'accord.
Tu vois, c'est pas interdit d'avoir un peu de mémoire quand on fait de radio quand même. Non, on n'est pas obligé de réagir au jour le jour et de dire tout et son contraire chaque fois quand même, non?
Je trouve que pour le fait que le collectif peut être insensé, c'est bien de le faire au nom du collectif.
Oui, sauf que.
À juste titre. Et même Mbappé, bien entendu.
Sauf que moi, je suis désolé. victoire. Je suis, oui, sauf que moi, je suis désolé. Pierrot, ton débat sur la fin du game avec Luis Enrique, eh ben, je le ferai à la fin de l'année, s'il te plaît, si ça ne te dérange pas. Voilà, parce que là, c'est pareil. Mais parce que là, aussi, mais parce que là, on réagit sur le match de mercredi. Ou de mardi, je sais plus.
Bah oui, mais bon, malgré tout, voilà, t'as réussi à le gagner sans un grand Mbappé.
Ah oui, non, mais maintenant, bon, si ça s'arrête le prochain tour, tout va bien.
Non, mais la saison sera réussie. C'est déjà inespéré d'être en demi.
Ah bon, mais alors d'accord, donc tout va bien. Écoute, si tout va bien, tout va bien.
Moi, mais, parce qu'en fait,
moi,
tu veux
faire. Alors, dans ces cas, si tout va bien, moi je vous écoute avec grand plaisir.
Mais ça veut dire que j'ai rien à voir dans le débat. C'est-à-dire que t'attends au tournant Luis Enrique à la prochaine défaite. C'est ça que ça veut dire en fait.
Ben non, mais je veux voir comment il va gérer son effectif et quel résultat il va avoir derrière, oui, quand même. Tu ne peux pas, alors qu'une semaine avant, on n'avait pas de mots pour parler de sa composition d'équipe, parler de la gestion de certains joueurs, de la gestion des temps de jeu, de la manière dont Xavi aurait été ce soir-là l'incarnation du jeu de là-bas. Et une semaine après, parce que
il y a un match
où il y a. Oui, mais comment il a gagné?
Un sport.
Mais comment il a gagné? Donc vous tenez pas compte des faits de match. Vous tenez pas compte que tu joues une heure à 11 contre 10. Dans la performance de l'équipe. La qualification, elle est acquise. La qualité des joueurs, ce soir-là, elle est faite. On a fait le débat, il n'y a pas de souci. Mais pour juger un entraîneur sur son travail, quand même, les gars. Alors que six jours avant, on n'avait pas de mots pour le critiquer.
Quand il met Ascension, on lui est tombé dessus. Pourquoi tu mets Ascension qui passe à côté? Et puis t'as le côté aussi un peu chounard.
Et donc,
Luis Enrique est chounard.
Ah oui, non, ça
sort.
Bah oui, d'accord.
Mais c'est pour ça que je vous donne.
On en a vu des mecs à 11 contre 10 qui perdent les matchs.
Si tu veux, mais Vincent, arrête-toi. Mais à ce niveau-là, c'est trop. La différence, elle est trop importante. Je comprends pas comment vous comprenez ça.
Parce que si tu veux, moi, il n'y a pas de problème que le bilan, tu le fais à la fin de saison.
Non, mais pas à la fin de saison.
Luis Enrique, ils n'échapperont pas à la critique. Il n'y a pas de problème. Si tu fais un mauvais match contre Dortmund, tu seras critiqué normalement. Qu'il faut prendre en compte qu'il y a eu un peu de chance dans le parcours, voire beaucoup au tirage au sort.
Mais ça fout ça la chance dans le parcours.
Mais sur l'histoire, Mbappé, Luis Enrique, je pense qu'en fait, on continue. Parce que, en fait, le débat, au moment notamment où il est sorti à la mi-temps à Monaco, a tellement exacerbé les passions qu'il faudrait avoir raison ou tort. Mais aujourd'hui, tout le monde a raison, en fait. C'est juste un moment de cette saison qui ne résume pas toute la saison du PSG. Donc, un moment, pour moi, il n'y a plus de débat en ce moment à Mbappé, Luis Enrique. Hier, j'entends Gilbert encore dire « Mais si, moi, je voulais le voir Mbappé parce que le meilleur doit tout le temps jouer ». Moi, ça me fatigue,
c'est plus le sujet du moment, je suis désolé, ce qui est quand même étrange.
Arrêtez, il faut passer à autre chose.
C'est que le début de mandat de Luis Enrique, il est quand même plus ou moins dans la même direction que les coachs du Paris Saint-Germain avant. C'est-à-dire Kylian.
Mais
à un moment donné, il dit même, on lui pose la question, Kylian joue tous les matchs. Il dit oui, mais Kylian, s'il a envie de jouer tous les matchs, il joue tous les matchs. Et puis, il y a ce changement, tac, ce flip, juste parce que Kylian Mbappé dit, je veux pas rester au Paris Saint-Germain. Mais si Kylian Mbappé était resté au Paris Saint-Germain, je suis pas sûr que Luis Enrique aurait modifié sa vision aussi comme ça.
Peut-être ça aurait été une erreur de ne pas la modifier.
Peu importe ce genre de truc. C'est pas une question d'honneur, d'ego,
voilà,
de courage.
C'est ça le truc. C'est une question qu'il apprend qu'il s'en va. Il n'y a peut-être pas que ça.
Il n'y a pas que le départ qui a fait qu'Mbappé. Peut-être qu'il a pété sur quoi en plus. Il a pété sur deux matchs. Il y en a combien 36 sur deux matchs. C'est pas non plus énorme. Je veux dire, il y a plein de joueurs qui n'ont pas joué deux matchs parce que l'entraîneur ne voulait pas qu'ils jouent, même si ce sont les meilleurs. Donc à partir de là, il n'y a pas de sujet. Et puis même s'il a varié son jeu par rapport au départ. Et puis il a raison de préparer l'année d'après, de préparer un groupe peut-être qui peut jouer, et peut-être qu'il a raison de le piquer pour qu'il se remonte aussi.
Non, mais ce débat-là, il a été fait 100 fois. Là, le problème de ce que nous dit Pierrot aujourd'hui, Pierrot, il explique à Steve qu'il n'a pas le droit de faire ce débat-là dans son émission. Voilà. Que c'est fini, il n'a pas le droit. C'est-à-dire que Pierrot Dorian, pendant une semaine, il était en vacances, on fait des débats à la mort, moi, le sgeg, et il explique à Steve, non, toi, tu n'as pas le droit, parce que c'est fini, le débat, il est fini. Le débat, il n'est pas fini. Steve, il a eu raison de le faire, ce débat.
C'est un débat polémique.
Et je suis sûr qu'il va le refaire, ce débat.
Tu vois, c'est ça le truc, qu'à un moment, nous, on doit être capable de voir ça quand même, tu vois.
Pierrot, Steve, ne te laisse pas faire, je t'explique ce que tu dois faire. Non, mais tu as vu ça où, toi?
Pierrot, il est bienveillant. Pierrot, explique-moi, bon. tu me dis que la polémique, elle est terminée. Qu'est-ce que tu penses de la réponse de Luis Enrique quand on lui dit que Mbappé participe pas, machin, et qu'il y a un turnover, et qu'il dit, je n'ai rien à dire jusqu'à ce que les parties se prononcent, je garderai le silence, et quand les parties se prononceront, je m'exprimerai.
Oui, parce qu'il a été questionné sur l'avenir d'Mbappé, sur Prime, là. Et quand est-ce que, en gros, il a annoncé officiellement son départ, etc., etc. Il a dit, bah, moi, j'attends juste le club. Et donc le joueur le fasse, et ensuite je parlerai.
Et donc il parlera, mais il va dire quoi?
Ah, ça, j'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Que
mais, plus, c'est...
mais après, moi, je suis désolé. Kylian Mbappé ne peut pas. C'est normal, en fait, que la situation ait changé à cause de son départ. Et après, on peut estimer que Luis Enrique est faux cul. Si vous voulez, je m'en fiche. Moi, ça, je m'en fiche. Mais en fait, il faut que vous compreniez que le fait qu'Mbappé parte, ça a tout modifié aux équilibres. C'est normal, c'est logique. Donc c'est pour ça que je vois pas où est le problème quand Luis Enrique fait ce qu'il a à faire, il estime que c'est comme ça, et quand en plus le jeu de son équipe lui donne raison, pour moi il n'y a plus grand chose à dire sur ce sujet.
Bon, au bout du compte, toi et moi on est d'accord, Luis Enrique, sa première saison au Paris Saint-Germain, c'est une réussite. Ça, on est d'accord pour le dire, Pierrot. Non, t'es pas d'accord?
Si, moi je suis entièrement d'accord, c'est ce que je te dis.
Mais je suis d'accord avec toi aussi, je le pense aussi, c'est une réussite.
Après, bon,
pourquoi pour opposer l'un à l'autre, du coup, tu vois, c'est ça que je comprends pas.
Il attaque pas une émission phare de la radio, hein. Il se met pas à mal tous les auditeurs.
Ah, ben oui, oui, c'est sûr. Moi, j'attends qu'il fasse la même sortie comme ça sur les grandes gueules.
Voilà, tu vois. Parce que là, il sait qu'il y a personne qui
va écouter. Ah, ben oui, oui. Là, il s'attaque au petit poussé.
La CGM, CGMA, aurait appelé directement.
Si vous voulez, on peut faire la même chose sur l'assurance chômage et les impôts, Vincent.
Eh ben, vas-y. Alors, si tu as du courage.
Non.
Ah, vous me faites dessus comme ça.
Mais oui, bon, c'est pas.
Pourquoi tu veux nous opposer aussi?
Non, mais c'est facile. Steve, c'est facile ce qu'il fait de s'attaquer à toi. C'est facile.
Mais c'est le sous-titre, ce que voulait dire Eric. C'est facile de s'attaquer aux petites émissions.
Oui.
Voilà, il n'était pas trop dans ton empathie.
Nous, on l'aimait bien.
Dans un instant, c'est le premier journal moyen de Julien Richard aujourd'hui. À tout de suite.
15h46, le Super Moscato Show. On vient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
15h49, le Super Moscato Show. On est sur RMC, ce journal moyen. C'est Julien Richard, première édition.
Première édition du journal moyen sur RMC, l'actu des médias, de la culture et de la musique. Beaucoup de musique aujourd'hui. On aura l'adieu de Jérémy Frérot à Laure Manaudou, les records et les cachotteries de Taylor Swift ou encore la reformation des Spice Girls. C'était ce week-end à Londres. Vous écoutez RMC, c'est le 1804e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
De la musique donc pour débuter, 2 ans d'absence et un retour pour Jérémy Frérot.
C'est dur de se séparer au 3e coup de sifflet. On sent la déception de la défaite. C'est si facile de se prendre la tête.
C'est ta cam,
c'est
ça, Vincent.
La team doit s'organiser.
Mais belle rime.
Devenir une famille sans y habiter. Papa, bon. Maman vont devenir.
Premier amis. Titre de son nouvel album, Jérémy Frérot. Il est sorti cette nuit et il s'appelle Adieu. Et c'est assez surprenant parce qu'ils ont toujours été très discrets là-dessus. Je sais pas si vous étiez au courant.
Oui, bien sûr. Oui.
Et cette chanson parle de sa rupture avec Laure Manaudou. Il était en couple avec Laure Manaudou depuis 2018. Ils étaient mariés. Ils avaient même 2 enfants. Et donc il raconte aux Parisiens qu'il est tombé malade en enregistrant ce morceau chez lui. Un quart d'heure, je suis monté à 42 degrés, je tremblais. Ouais.
Voilà, c'est ceux que t'appelles Frérot de Las Vegas.
C'est Frérot de Las Vegas.
Ça m'a fait c'est Jérémy.
C'est Jérémy.
Une lettre d'amour pour une séparation.
Incroyable.
Ah donc, c'est une lettre d'amour pour la séparation. Bah,
c'est voilà. Le premier à faire une chanson.
Et donc, des chansons d'amour. Donc après, on aime, on n'aime pas, mais on ne va pas critiquer le thème. Le thème, toute la vie, les mecs, ils ont fait des chansons. Oui. C'est des lovers. Voilà, c'est la Moscadène, c'était un hommage.
Une lettre d'amour.
Vu la qualité de la Moscadène, il aurait mieux valu que tu fasses une chanson jusqu'à te tirer chez Cornard. Tu aurais été meilleur.
Ils ne se sentaient pas du tout concernés par l'info jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on parlait de Frérot de Las Vegas.
Non mais Frérot tout seul, tu me dis Frérot tout seul.
Jérémy Frérot, le groupe s'est séparé, il fait un album solo.
Ma tête c'est Las Vegas, c'est son frère.
Il est séparé de Laure Manaudou.
Mais il y a longtemps, il s'est séparé, mon Dieu.
De Laure Manaudou.
Je vais voir, Cachon, ils ont ouvert un bar avec la petite Manaudou, je crois.
Le couple a coulé.
Je suis pas sûr. Tu sais où toi qui devais avoir. Vous savez avec qui il est.
Tu m'appelles Guillaume Canet.
C'est à qui il est. Avec qui moi je sais, mais je peux pas le dire.
Avec Marie, il avait Marie Zéma IGP.
Bravo.
Super. Allez, sans transition, record du monde. Qui passe de la Bretagne à l'Occitanie, figurez-vous.
Ce soir, au bar de la gare, Igor Agar et Noir, il n'arrête guère de.
Bonjour, je suis Bobby. C'est une question.
Record du monde battu hier à Pézenas. Dans l'Hérault, à l'occasion du Printival, qui rend donc hommage à Bobby Lapointe, que vous entendez, chanteur culte, qui est mort en 1972, et qui était originaire de Pézenas. Pour connaître la nature de ce record du monde, je vais vous demander quelle était la particularité vestimentaire de Bobby Lapointe.
Ah, les bretelles, non?
Non,
c'est quoi? La marinière.
Ouais, c'est
ça. Ah, ouais,
c'est fort.
Tu sais que c'est un mécanicien, lui. Il a un brevet de mécanique, Eric, ouais. De la boîte de l'embrayage ou de la boîte à vitesse.
Ah, vous le regarderez. Moi aussi, je suis spécialiste de la boîte à vitesse.
Il a le brevet de mécanique.
Ça, par contre, vous l'entendez pas dans Stephen Time.
C'est sûr.
Ben oui, je crois que c'est soit l'embrayage automatique.
C'est du grand Mendez.
Ça, c'est du grand Mendez.
Donc, le record du monde, je vais vous parler à la hauteur de ça. C'est le record du monde de marinière, donc, qui a été battu à Pézenas. 926 personnes vêtues d'un haut rayé qui se sont regroupées. Elles ont battu l'ancien record qui était détenu depuis le mois d'avril, début du mois, par la Bretagne Roscoff qui avait réuni 416 personnes. En termes de record du monde qui servent à rien.
Oui.
Je pense que
l'omelette géante.
Tu peux le manger. Tu peux le battre, ce record. T'invites tous tes potes à mettre une marinière.
Oui, c'est sûr. Pierrot, t'as vérifié?
Je suis en train.
Bobby Lapointe, CAP, boîte à vitesse.
Un tourneur faiseur. Chez Dassault, comme Serge Blanco.
Allez, sans transition.
CAP, boîte à vitesse.
Sans transition, Barbie dans la sauce.
Hey Bobby, hey, she's so cool. Watch me.
La sauce barbecue. C'est une célèbre marque de ketchup qui commence par Heinz et qui finit par Z, qui avait lancé un sondage au moment de la sortie du film Barbie, donc il y a un an, hein, en gros, carton mondial Barbie.
Quel odeur, quoi,
la question, c'était, est-ce que vous préférez que l'on crée la sauce barbecue ou la sauce ketchup?
J'aime bien les jeux de mots.
C'est donc Barbie qui est sorti vainqueur de Ken.
Donc il faut qu'elle soit rose, la sauce.
Exactement. Ouais. C'est un mélange mayo, sauce mayo, sauce barbecue, et évidemment de couleur rose. Comment on a obtenu la couleur rose?
Il suffit de mettre du
rouge
mayo
et du blanc. Du rouge et du blanc, t'as du rose. Hein.
Non. La fameuse sauce cocktail.
Du jus de betterave. C'est le truc que je supporte le moins au monde, de la betterave.
Sérieux?
Ça, c'est vraiment. Ah oui, non, mais tu sais que. Ben ça, je pense que toi, tu es comme moi. C'est-à-dire qu'à l'école, ils nous ont fait manger des betteraves pourries. Et toute ma génération a été traumatisée par la betterave.
Et ça, comme les salades de fruits en ramequin, le même ramequin que la betterave.
Exactement.
Ah ouais, c'est affreux, quoi.
Alors, ce qui est bien pour toi, Vincent, c'est que la tonne. Cette sauce est vegan, donc il n'y a pas de souci, tu peux la
faire. Ah ouais, vegan.
Édition limitée, 5000 tubes, dispo uniquement au Royaume-Uni et en Espagne.
Super.
Pour l'Espagne.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on mettrait dans la mousse ketchup?
Dans la mousse ketchup?
Ouais.
Ah. Déjà, elle serait marron derrière et jaune devant. Déjà.
Caprice des dieux.
Un mélange de fromage et de piment. Du piment de
Spelette. Avec caprice des dieux.
Et toi, le grand, crac, il s'en foutrait un coup de piment dans le.
Bobby Lapointe, tu veux l'info sur Bobby Lapointe?
Bobby Lapointe
n'était pas seulement le chanteur que l'on connaissait, il était aussi un élève doué pour les sciences au point qu'il a inventé le premier système d'embrayage automatique pour voiture, mais il n'a pas été reconnu pour cela car il n'a pas déposé de brevet.
Voilà.
Bravo Bobby.
Tu vois, c'est
toujours à la pointe de la technologie.
C'est énorme ça quand même.
Mais oui, mais c'est un truc de fou. Parce que c'est pas un petit.
Mais comment tu fais pour inventer un truc et pas le déposer?
Parce que c'était un.
Il a fini
à la ramasse complet. Et puis voilà, c'était un artiste dans un truc, il n'a jamais déposé. Puis les mecs, ils déposaient pas. Mais les grosses boîtes comme Ford. Ils avaient déjà des mecs de.
T'as déposé un colis dans ta vie, t'as déposé un colis.
Je te déposerai devant la cheminée à Noël.
J'ai déposé un brevet un jour avec un copain.
Eric, t'as déposé un brevet toi?
J'ai déposé un brevet un jour avec un copain. Ouais.
C'est quoi des brevets?
C'est complètement stupide parce que. Mais c'était le golf de table parce qu'on s'était mis au golf avec un pote et on s'était dit putain, mais il y a le tennis de table, pourquoi pas le golf de table? Et donc on avait déposé.
On avait déposé, mais je vous montrerai le brevet, je te jure que c'est la vérité. Et l'autre jour, j'ai vu un mec qui avait inventé un petit golfeur que tu tiens et qui joue un peu comme nous. Il avait dit, mais ça n'a jamais marché.
Je jure que c'est la vérité. C'était un golf de table un peu bizarre.
Non, c'est une table, en forme d'un haricot, là. Et tu tournais autour et tu jouais avec un petit club.
C'était en forme de concombre, moi, si vous voyez.
Non, en réalité, tu jouais tout nu. Tu jouais tout nu et tu faisais l'hélicobite et tu faisais des drives.
Et le dernier trou, vous voyez ce que j'avais dit, il était fourré. C'était des roches sur le côté du dernier trou.
Merci, on a bien compris l'image. Bradley Barcola et Damien Penaud sont-ils des ingrats, supporters de Lyon et de Clermont? Vous attendez au 32-16 sur RMC.
15h57, le Super Moscato Show, on revient tout de suite.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.